Disons quelques mots de cette croyance en la réincarnation si répandue aujourd'hui et suivant laquelle l'âme, après la mort, passe dans un autre corps pour y recommencer une nouvelle vie et se purifier si possible des souillures contractées dans les existences antérieures. Après vous avoir rappelé rapidement quelques arguments en faveur de la réincarnation, nous verrons à quel point cette croyance si répandue aujourd'hui est totalement contraire au cœur de la doctrine évangélique. Les arguments invoqués. J'ai fait cours pendant toute une année à un élève de terminale qui est devenu architecte et dont le frère jumeau est trisomique. Imaginez la question que s'est posée pendant des années cet enfant et qu'il se pose encore maintenant. Comment se fait-il que ce n'est pas moi le trisomique? À quelques microns près, dans le ventre maternel, c'est moi qui aurais pu être trisomique. Si vous croyez à la réincarnation, vous avez une explication à donner. Lui est plutôt surdoué du point de vue intellectuel parce qu'il a beaucoup travaillé dans une existence antérieure, tandis que son frère trisomique est obligé de se purifier par cette nouvelle existence des souillures contractées dans une existence antérieure. Vous savez qu'en Inde, les pauvres, les parias, sont persuadés que c'est de leur faute, ou plus exactement, c'est parce que dans une autre existence, ils ont été de pauvres types qu'ils en sont là. La loi du karma, si chère à la pensée hindoue, la loi du karma fait que on subit forcément les conséquences de ce que l'on a fait dans une existence antérieure. Vous comprenez qu'avec une telle mentalité, il est difficile de persuader les pauvres qu'ils peuvent sortir de leurs conditions misérables. Donc, voilà un premier argument, une façon d'expliquer les inégalités à la naissance. Si Mozart, à 5 ans, composait des musiques aussi élaborées, c'est qu'il les avait déjà ébauchées dans des vies antérieures, pensent les adeptes de la réincarnation. Deuxièmement, quand un être humain n'a pas eu tout son compte de vie, quand il est mort brutalement, eh bien, il doit avoir une possibilité de continuer ce qu'il a commencé et qui a été trop vite interrompu. Quand je vais sur la tombe de mes parents, je vois que au début du XXe siècle, un oncle paternel que je n'ai jamais connu est mort à 18 ans brutalement un 1er janvier. Mes grands-parents n'ont jamais su pourquoi leur fils était mort. Si je regarde l'album de famille, il y a certains traits de ressemblance entre cet Émile d'Escoumont et le Pierre d'Escoumont que je suis. Ceux qui croient à la réincarnation diront « c'est normal, Pierre d'Escoumont continue, sans le savoir, l'existence vécue par son oncle il y a bien longtemps. C'est une réincarnation de son oncle. Donc, il est normal qu'il ait certains traits de son caractère et certains traits de son aspect physique. Donc, un enfant qui meurt subitement de leucémie, un enfant surdoué qui avait beaucoup de possibilités, beaucoup de talents et qui est brusquement interrompu par un accident, eh bien, certainement qu'il peut continuer à travailler dans une autre existence. D'autre part, vous comprenez à quel point on se précipite dans cette doctrine de la réincarnation, parce que c'est une façon d'éviter le mystère de l'enfer. Il est impensable, pensent certains, que Dieu condamne à des peines éternelles des êtres aussi fragiles que les hommes. L'existence humaine est trop brève, l'homme doit avoir le droit à l'erreur, il doit bénéficier d'examens de repêchage. La croyance en la réincarnation permet d'échapper à la perspective terrifiante d'un enfer éternel. Les hommes qui ont vécu dans le mal ne connaissent que le purgatoire, et celui-ci s'accomplit sur terre au cours d'existences successives. Il est facile de montrer que cette croyance en la réincarnation est totalement contraire au cœur du mystère chrétien. En effet, si vous croyez à la réincarnation, vous méprisez profondément le corps humain. Le corps, pour les adeptes de cette croyance, est une guenille qu'il faut abandonner le plus vite possible pour aller habiter ensuite dans un autre corps. C'est l'âme qu'il faut purifier. Socrate disait déjà à ses disciples avant de boire la ciguë en 399 avant Jésus-Christ, « N'allez pas pleurer mon corps quand je serai mort. » Non, ce qui compte, c'est l'âme qui doit se partir dans les Champs-Élysées du ciel. Le corps, ce n'est rien du tout. Tandis que les chrétiens professent vis-à-vis du corps un immense respect puisqu'ils affirment que Dieu lui-même a pris un corps comme le nôtre. Vous savez que la première hérésie de l'Église, c'est le docétisme. Des chrétiens ont pensé qu'il n'était pas possible que Dieu ait pris et pu aller aux toilettes, que Dieu ait pu avoir un corps comme le nôtre. Si, a répondu l'Église, le Christ a eu un corps absolument semblable au nôtre, même s'il n'a pas été conçu comme les autres enfants, il avait un intestin, il avait des entrailles. Et ce n'est pas pour rien que saint Jean, le témoin du calvaire, insiste sur cette eau et ce sang qu'il a vu couler de ses propres yeux du côté transpercé de Jésus. Donc, ne laissons pas dire que le christianisme méprise le corps. Le christianisme est la seule doctrine au monde qui affirme que Dieu a pris un corps pour toujours, car ressuscité, Jésus continue à avoir un corps. Bien sûr, on ne sait pas la proportion de magnésium, de calcium ou de potassium qu'il y a dans le corps du Christ ressuscité, toujours est-il qu'il n'est pas devenu un ange. Et que c'est par ce corps que toutes les grâces reçues par les hommes véhiculent. Nous ne sommes pas sauvés par un message, fut-il celui des béatitudes, nous sommes sauvés par le corps du Fils de Dieu fait homme. Quand vous entrez dans une église, l'armoire essentielle ne contient pas un livre comme l'armoire d'une synagogue. L'armoire contient un corps. Le tabernacle abrite le corps de Dieu. Et nous croyons que nous aussi, nous ressusciterons dans notre corps. Le corps n'est pas une guenille à abandonner. Le corps est appelé à ressusciter. D'autre part, nous sommes tous infiniment aimés. Le trisomique est aussi aimé que son frère jumeau architecte. Nos limites, nos handicaps, ne nous empêchent absolument pas d'être infiniment aimés du Père. Il nous crée à exemplaire unique et nous avons tous une vocation irremplaçable. Dans le corps de son Fils, les membres ont des fonctions différentes, mais ils ont tous une valeur infinie à ses yeux. Et nous savons que les grands handicapés peuvent réussir leur vie aussi bien que les autres. Il suffit d'écouter la façon dont les trisomiques sont capables parfois de crier leur foi avec une simplicité qui nous émeut profondément. Je pense à cet enfant trisomique à qui la maman demandait quelque temps avant la communion de celui-ci, « Qu'est-ce que tu voudrais, mon enfant, pour ta communion ?» Et la maman faisait évidemment allusion au cadeau qu'il voudrait recevoir. Et l'enfant de répondre, « Ce que je voudrais pour ma communion, c'est Jésus. » Ou bien ce trisomique qui se trouve tout près d'un homme très respectable sur l'esplanade de Lourdes. Et cet homme s'impatiente parce que la procession ne se met pas en route aussi vite qu'il le voudrait. « Qu'est-ce qui se passe » dit-il. Et le trisomique de se tourner gentiment vers lui, « Il se passe, monsieur, que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il va passer d'un moment à l'autre. » Oh oui, nous sommes souvent dans l'admiration pour la simplicité de la foi de ces enfants qui ne construiront jamais une maison, mais dont la foi est admirable et qui peuvent devenir des chefs-d'œuvre dans le paradis bien plus que beaucoup d'autres chrétiens.